Bonjour les enfants et les parents. Aujourd'hui je me présente, je m'appelle Léon, j'ai 11 ans. Et voici Marius, 11 ans. Nous sommes en classe de 6e dans l'établissement Antoine Gap. Et nous allons être vos guides durant cette visite du complexe Roland-Garros. Allons-y. Nous entrons maintenant dans le plus grand bâtiment de toutes les infrastructures du complexe Roland-Garros.
J'ai une question.
Vas-y, je t'écoute.
Mais c'est qui Roland-Garros?
Ah, c'est une très bonne question, n'est-ce pas Marius?
Oui, allez, on vous raconte tout. Roland-Garros est né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis à La Réunion.
Parfaitement. À peine débarqué à Paris, au collège Stanislas où ses parents l'ont inscrit en 6e R1, le garçon de 12 ans est foudroyé par une grave pneumonie. Et sans attendre l'avis des parents trop lointains, la direction du collège décide de l'envoyer à l'autre collège Stanislas, à Cannes.
Il retourne à Paris pour l'année de terminale en philo qu'il prépare au lycée Janson de Sailly. Puis, il réussit son entrée à l'école de commerce de Paris. Il sera dans la même promotion de 1908 qu'Émile de Sieur, qui le soutiendra lors de son adhésion au Stade français, où il est inscrit dans la section rugby. Monsieur Le Sieur aura aussi une grande importance dans le fait que Roland-Garros devienne le nom d'un tournoi majeur du Grand Chelem en 1828. En réalité, même s'il pratique un peu le tennis, ce n'est qu'un amateur. Continuons. Ayant obtenu son diplôme, il se fait embaucher par la firme automobile Grégoire comme commercial. Il devient chef d'entreprise à 21 ans avec sa boutique Roland-Garros Automobile et vend les voitures Grégoire. Il ne devient pas avocat au grand désespoir de son père.
En vacances d'été 1909, à Courcelles-Sapicourt, près de Reims, chez l'oncle de son ami Kelenec, il assiste à un meeting d'aviation. Et c'est une révélation, il sera pilote. Grâce aux bénéfices de son commerce automobile, il s'empresse de commander au salon de la locomotion aérienne la moins chère des machines volantes de l'époque, une demoiselle. L'appareil est fragile et très dangereux, à cause de son train d'atterrissage fragile qui se brise facilement. Comme il n'y a pas d'école de pilotage, il apprendra tout seul. Mais cela ne l'empêchera pas d'être embauché pour les cérémonies du 14 juillet 1910 par le comité permanent des fêtes de Cholet, avant même d'avoir obtenu son brevet de pilote. Il l'obtiendra le 19 juillet. Ayant à peine volé un peu plus de 3 heures, il est engagé par l'industriel américain Art Oberg pour le meeting du Belmont Park à New York.
C'est à Angers que Roland-Garros va obtenir son premier très grand succès. Le Grand Prix de l'Aéroclub de France doit couronner le vainqueur du circuit d'Anjou. Il s'agit d'accomplir 7 fois et en 2 jours, le dimanche 16 et le lundi 17 juin 1912, le triangle Angers-Cholet-Saumur, soit un peu plus de 1100 km. Roland-Garros, qui se présente avec son Blériot 50 personnels, il ne vole que sur ses propres machines, il sera opposé aux 33 meilleurs pilotes du monde, soutenu par tous les moyens possibles des industries les plus puissantes du monde. Malgré le vent et la tempête, Garros restera le seul en l'air avec le jeune Brin de Jonc des Moulinets, qui, malheureusement pour lui, franchira la ligne d'arrivée en dehors du temps réglementaire. C'est après cette victoire que les journalistes commencent à le surnommer le champion parmi les champions.
Et il confirme son surnom en 1914 au premier meeting de Vienne où tout prix accumulé il reçoit 21 000 couronnes. Une couronne est une récompense obtenable après une victoire dans un meeting d'aviation. La somme la plus importante attribuée à un pilote français était à Edmond Audemars, 7500 couronnes. Il ne s'endormira pas sur ses lauriers et tout de suite après ses brillantes victoires, il va de nouveau obtenir avec son Blériot le record d'altitude à Houlgat avec un appareil du même type que celui utilisé l'année précédente à Cancale. C'est près d'un kilomètre qu'il gagne en hauteur, le voilà à 4960 mètres.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage dans l'armée française. Il devient pilote d'observation, mais il se distingue rapidement par ses innovations techniques. Il met au point un système de tir à travers l'hélice de l'avion, permettant aux mitrailleuses de tirer sans endommager les pales, ce qui était révolutionnaire.
Je vous avais dit qu'Émile Lessieur, son condisciple d'école de commerce, a eu une grande importance sur le fait que Roland-Garros soit le nom d'un tournoi majeur du Grand Chelem. En effet, il a dit
« Je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas à ce stade le nom de mon ami Roland-Garros. »
Voilà à peu près toute l'histoire. Nous arrivons maintenant sur le cours Philippe Châtrier. D'ailleurs, une citation attribuée à Roland-Garros est aujourd'hui inscrite sur la rambarde qui sépare la partie inférieure de la partie supérieure de la tribune centrale du cours Philippe Châtrier. La citation en français. « La victoire appartient au plus opiniâtre », faisant face sur l'autre tribune à sa traduction en anglais. « Victory belongs to the most tenacious ».
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine dans un nouvel épisode du podcast Voice Gap.